Alors, comment on va traiter? Alors, oui, d'abord, quelques mots sur un petit peu l'épidémiologie, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Hein, ça a été décrit en 1996. Vraiment, la prise de conscience était beaucoup plus récente. Et maintenant, pour les spécialistes, hein, des jambes sans repos, c'est quand même le problème majeur de la prise en charge de ces patients. Donc, ça concerne de manière très importante la DOPA, raison pour laquelle Yves Domullier vous a dit qu'on ne doit plus utiliser ce traitement. Ça peut concerner tous les agonistes dopaminergiques, et d'autant plus quand la demi-vie de cet agoniste est courte. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, enfin 15 ans, quand on a commencé à traiter de manière assez courante les syndromes des jambes sans repos par agoniste dopaminergique, on avait plutôt l'idée qu'il fallait donner des traitements de demi-vie courte, parce qu'on se disait, c'est des symptômes qui vont durer quelques heures le soir. Pourquoi donner un médicament qui va durer toute la journée, alors qu'en fait, on veut traiter des symptômes pendant quelques heures? Donc au début, on s'est focalisé sur les traitements à demi-vie courte, et maintenant, on sait qu'au contraire, il faut avoir une stimulation dopaminergique assez prolongée, assez stable dans la journée, pour prévenir le syndrome d'augmentation. Donc aujourd'hui, on privilégie les produits à demi-vie longue et on rejoint un problème évoqué par Yves, des problèmes d'AMM et de remboursement. C'est qu'aujourd'hui, les rares produits en France qui ont l'AMM sont des produits à demi-vie courte et ceux à demi-vie longue n'ont même pas l'AMM. Bon,
sauf la
rotigotine. Mais comme je voulais dire, dans les formes, le pramipexol, il existe en forme à immédiate, la forme de libération prolongée, et il n'y a que la forme immédiate qui a théoriquement l'AMM. Donc il y a ni d'adéquation totale entre l'état actuel des AMM et l'état actuel des connaissances de la science. Une question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des syndromes d'augmentation avec d'autres traitements que les dopaminergiques? Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait la réponse, mais la question peut se poser. Sur des études un peu épidémiologiques, un chiffre qui a été avancé, une seule étude, c'est que en gros, chaque année de traitement par dopaminergique, on aura 8% de chances de développer un syndrome d'augmentation. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans de traitement, la probabilité d'avoir développé ce problème est quand même très importante. Je ne reviens pas sur les aspects de prédisposition génétique qui ont été largement évoqués par Yves. Alors, le traitement du syndrome d'augmentation, il est avant tout préventif. On revient dans un des P de Yves, puisqu'effectivement, en conduisant de manière correcte, selon les recommandations actuelles, la mise en route initiale du traitement, on peut quand même largement minimiser ce risque. Donc, c'est quoi la prévention du syndrome d'augmentation? D'abord, on y revient, avoir préalablement traité les facteurs aggravants, notamment la carence en fer, ne pas se précipiter sur un traitement médicamenteux, attendre que ce soit vraiment nécessaire, donc essayer les petits moyens non médicamenteux. Ne pas traiter les syndromes des jambes sans repos léger. Il faut savoir expliquer au patient qu'il a une pathologie, qu'une vraie pathologie, qui peut être un peu embêtante par moment, mais que le rapport bénéfice-risque d'un traitement à son stade n'est pas favorable, et qu'il faut qu'il fasse avec ses petites gênes par moment, ou qu'il se traite ponctuellement, mais qu'il n'ait pas un traitement fort d'emblée tous les jours. Donc ça nécessite, ça fait partie globalement un peu de cette notion de responsabilisation du patient, d'éducation thérapeutique. C'est un discours que le patient peut entendre, à condition qu'on prenne le temps de l'expliquer comment et pourquoi. Si finalement on doit mettre en place un traitement dopaminergique, et on a vu avec Yves qu'il y a certains profils de patients où on peut penser que ça reste le traitement de première intention, on doit l'introduire de manière très progressive pour trouver la plus faible posologie possible. Donc pas faire partir le patient d'emblée avec des doses moyennes, parce que certains patients vont réagir correctement à des petites doses, et dans ce cas-là, on reste à ces petites doses. Comme je disais tout à l'heure, périodiquement, quand ça va bien, on essaye de baisser la dose, toujours pour être à la dose minimale dont le patient a besoin à ce moment-là. Donc un suivi régulier par quelqu'un de spécialisé. Ne pas chercher la perfection, ça aussi c'est très important, c'est discussion avec le patient. De même qu'on ne traite pas le syndrome des jambes sans repos léger, on ne cherche pas non plus à éliminer le dernier petit symptôme quand on traite. On dit au patient, voilà, vous aviez un syndrome des jambes sans repos invalidant, donc je vous traite, et on va essayer que ça devienne vivable, mais il restera des petites choses, mais ce n'est pas grave, ça veut dire au moins qu'on n'est pas avec un traitement trop fort, qu'on est effectivement au bon niveau de traitement. Et ça, le patient, il peut le comprendre si on lui explique que c'est pour éviter des complications à long terme, et que si on cherche la perfection à court terme, on compromet l'évolution à long terme. Donc éviter les produits à demi-vie courte, et la DOPA, on en a déjà parlé. Après, qu'est-ce qu'il faut utiliser en première intention, dopaminergique, non dopaminergique? Il en a un petit peu parlé. Il y a des conditions dans lesquelles le dopaminergique reste probablement intéressant en première intention, notamment quand il y a beaucoup de mouvements périodiques, notamment quand il y a des troubles de l'humeur importants. Voilà. peut-être que ces choses-là évolueront, mais l'état aujourd'hui, et donc ce qu'on a mis dans notre consensus, c'est qu'effectivement, dans certains cas, les agonistes dopaminergiques sont intéressants en première intention, et puis dans d'autres cas, en deuxième intention, quand on a jugé préférable de commencer par un autre traitement et que ça a échoué, qu'on revient finalement aux dopaminergiques. Alors une fois que le syndrome d'augmentation est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là encore, on va rechercher les facteurs aggravants et les corriger, parce que parfois, ça n'avait pas été fait avant, ou parfois il y a une carence en fer qui est arrivée entre-temps, et il faut la rechercher et la corriger. Et quand on est dans des formes pas trop sévères de syndrome d'augmentation, on peut maintenir un traitement dopaminergique en le modifiant un petit peu. Par exemple, si on a un agoniste à demi-vie courte, on peut passer à un agoniste à demi-vie longue. Parfois, on peut aussi simplement jouer un peu sur les horaires de prise ou sur la posologie. Si on est à une posologie encore en dessous des recommandations, on peut encore monter un peu et voir ce qu'on arrive à faire. Si ces premières mesures ne marchent pas, ou si on est de toute manière d'emblée devant son augmentation sévère, et on est, nous, spécialistes, souvent confrontés à ça, c'est-à-dire des errances diagnostiques de gens qui ont été traités par les dopaminergiques, souvent de manière un peu inadaptée à trop forte dose, avec des escalades thérapeutiques, et quand ils arrivent chez nous, ils ont des doses beaucoup trop élevées d'agonistes dopaminergiques, un syndrome d'augmentation très sévère, et là, d'emblée, on doit passer à des prises en charge un petit peu plus agressives. Donc si le syndrome d'augmentation est sévère, d'une manière ou d'une autre, il va falloir sevrer les agonistes dopaminergiques. Alors là, dans les consensus français, on n'a pas vraiment donné une méthode unique de sevrage. Là où on est consensuel, c'est sur le fait qu'il faut aller assez vite. Ça ne sert à rien de faire ça très lentement, parce que de toute manière, cette période va être pénible pour le patient. De toute manière, chaque fois qu'on va baisser sa dose, il ne va pas être bien. Donc ce n'est pas la peine de faire durer pendant des mois. Donc il faut de toute manière aller assez vite. Et après, dans ce « assez vite », il y a la technique montpelliéraine qui est « du jour au lendemain, on arrête tout ». Et puis, il y a des techniques un petit peu plus progressives, mais toujours rapidement progressives. Donc, de toute manière, ce sevrage, ça va être entre 1 et 10, une dizaine de jours pour faire ce sevrage. Autre question qui n'est pas complètement tranchée, c'est à quel moment on va introduire un autre traitement. Parce que souvent, si on sevre en agoniste dopaminergique, on va être amené ou obligé de donner autre chose, donc neurontin, lyrica, opiacé, vasodiazépine. Là encore, il n'y a pas une conduite à tenir univoque. Certains disent qu'ils préfèrent donner avant le sevrage déjà un autre traitement pour que le sevrage soit un petit peu moins pénible. D'autres considèrent qu'il vaut mieux faire un sevrage complet pour repartir de la maladie vierge et après reconstruire un nouveau traitement.